Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Avertissement, cet épisode évoque ma santé mentale. Bonjour à tous et bienvenue dans Marie sans filtre. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite chez mes parents en banlieue parisienne. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, valide, athée et d'origine bourgeoise. Marie sans filtre est mon podcast intime, féministe et politique. Ici, je raconte mes expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Je sors un épisode le deuxième vendredi de chaque mois. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience en Russie. Dans ce 41e épisode, je veux parler de mon échange, mon année d'échange universitaire à Moscou, que j'ai vécu entre 2014 et 2015. Mais avant de vous raconter ma vie, je cite un commentaire reçu au sujet de mon podcast, c'est mon rituel. Aujourd'hui, je veux citer Sylvain Poule qui, le 24 janvier 2022, a laissé le commentaire suivant sur ma cagnotte Tipeee. Je suis trop fan de tes podcasts, surtout Marie sans filtre. Grosse baffe de sincérité et de lucidité. C'est du cru qui vient des tripes, c'est troublant, dérangeant, dégenrant. Je suis sûre que ton travail va me faire travailler et ça, c'est que du bonheur. Merci Sylvain pour ce beau commentaire, pour votre travail et pour votre soutien financier. Vous autres auditeurs, si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un avis différent ou similaire sur mon Tipeee ou bien sur votre plateforme d'écoute, histoire que je vous lise dans le prochain épisode. Je reviens maintenant au sujet du jour, je pars vivre un an en Russie. Cet épisode a été initialement enregistré le 9 mars 2021, il y a un an, à Alençon en Normandie. Il a déjà été diffusé dans un autre podcast qui s'appelle le podcast Les Aïeuronautes, animé par Clara, Johanna et Aura pour l'association ornaise Découvre Verte. Donc il a été diffusé initialement le 15 mars 2021. Dans cet épisode, vous m'entendrez exceptionnellement répondre aux questions d'autres personnes que moi-même, à savoir ma sœur Clara, donc, et sa collègue allemande Johanna, qui travaillaient toutes les deux en service civique dans cette association Découverte à l'époque et produisaient le podcast Les Aïeuronautes. Voilà, j'espère que vous avez compris. L'émission est très complète au sujet de mon année en Russie, de mes galères et de mes joies. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Aéronautes, notre podcast dédié au voyage. Je suis Clara, volontaire en service civique.
Et moi, je suis Johanna, volontaire allemand chez l'association Découverte. Bonjour. Dans notre podcast, nous avons déjà eu beaucoup de personnes qui ont parlé de leur expérience internationale merveilleuse, mais il y a aussi l'autre côté des choses. Parfois, le séjour à l'étranger ne se passe pas complètement comme prévu.
Quand on écoute les témoignages que nous avons déjà recueillis dans d'autres épisodes et que je vous encourage à aller écouter, on a l'impression qu'une expérience à l'étranger, c'est des arcs-en-ciel et des licornes de bout en bout. Aujourd'hui, notre invitée, Marie, vient nous raconter son expérience à Moscou, où elle a effectué une année d'études et va nous expliquer ce qu'elle retient de cette expérience après plusieurs années. Bonjour Marie.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ?
Bonjour, je m'appelle donc Marie, j'ai 26 ans, j'habite à Alençon et je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Donc voilà, je travaille comme indépendante de chez moi et j'aime beaucoup voyager.
Et à Moscou, quand est-ce que tu es partie ?
Donc je suis partie à Moscou en échange universitaire en 2014-2015 parce que j'étais en études à Sciences Po Lille. Et donc en troisième année à Sciences Po Lille, on était obligé de partir à l'étranger. Donc moi, comme j'étais passionnée par le russe, par la Russie, j'avais choisi dès le début de partir à Moscou. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de choix, il y avait soit Moscou, soit Saint-Pétersbourg. Et à Moscou, les cours étaient en russe et du coup, je voulais progresser un maximum. Du coup, je suis partie à Moscou pendant un an, de septembre à juin, donc 2014-2015.
Ça veut dire que tu savais déjà parler un peu de russe avant ?
Ouais, en fait, j'ai commencé le russe au lycée en seconde. Et j'avais une prof incroyable et du coup j'ai adoré le russe, c'était une LV3, donc c'était ma troisième langue. Et je faisais anglais, espagnol, russe et latin. Et du coup, comme j'ai passé un bac littéraire, j'ai fait spécialité russe et après à Sciences Po j'ai continué à faire du russe. Et donc pour moi c'était évident que j'allais partir en Russie parce que j'y étais déjà allée, que je trouvais ça incroyable et que j'allais progresser en russe et que tous mes cours seraient qu'en russe, donc je devrais écrire des dissertations en russe. Enfin, j'avais trop hâte.
Et donc, la Russie ne fait pas partie du programme Erasmus, donc dans quel cadre es-tu partie ?
En fait, à Sciences Po, dans tous les Sciences Po, il y a des partenariats avec des universités hors Erasmus. Donc, on peut partir, bien sûr, en Erasmus, auquel cas, vous savez, on a la bourse Erasmus. Et puis, on peut partir hors Erasmus, auquel cas, on n'a pas la bourse Erasmus. Il faut payer les billets d'avion, tout ça. Donc, il y a plein de gens qui partent au bout du monde, aux États-Unis, en Amérique latine, en Australie. Et moi, donc, je suis partie en Russie. C'est un échange. En fait, c'est un partenariat entre l'école et l'autre école. Donc, il y avait un partenariat entre Sciences Po Lille et l'école de Moscou qui s'appelle le MGIMO. C'est un Sciences Po à la russe, quoi.
Et du coup, comment tu as financé tes études là-bas ?
Bah, du coup, les études, elles étaient gratuites. Enfin, je veux dire, c'était un échange, donc il n'y avait pas de frais à payer. Je devais payer juste Sciences Po. Donc ça, c'est mes parents qui sont riches et qui m'ont payé toutes mes études de 18 ans à 24 ans. Enfin, à 23. Donc quand j'étais à Moscou, en gros, il y avait la résidence universitaire, on va en reparler, qui coûtait aux alentours de 200 euros par mois, donc c'est beaucoup moins cher qu'un appartement en France. Et donc après, c'était l'avion que j'avais dû prendre plusieurs fois dans l'année, mais sinon la vie sur place, c'était pas, c'était comme à Lille, quoi. C'était pas hyper cher. Et puis en plus, il y avait c'était la crise économique, donc les euros étaient changer en rouble et c'était avantageux pour les étrangers comme moi. Donc ça va. Mais après, on voyageait beaucoup en Russie, donc il fallait quand même payer les trains et tout.
Ça veut dire que tu as fait tes études, mais tu es voyagé aussi ?
Ouais, je pense comme la plupart des Erasmus, surtout quand on est en Russie, c'est très tentant de prendre le transsibérien, d'aller voyager à Saint-Pétersbourg ou dans le sud. Du coup, j'ai pas vraiment séché des cours. Hein. Je veux dire, on allait en week-end, ou des fois on n'avait pas cours pour les vacances, ou des fois on séchait les cours, c'est vrai. Mais du coup, oui, on a fait quelques voyages, et puis je suis allée aussi en Europe de l'Est, par exemple en Pologne, en Lettonie, en Ukraine. C'était trop bien.
Cool.
Et avant de partir en Russie, comment tu imaginais ton expérience ? Est-ce que tu appréhendais ?
En fait, quand je pars en voyage à l'étranger, je veux dire, j'ai toujours une appréhension. Enfin, je sais pas si vous l'avez aussi, mais de se dire, on ne parle pas la langue. Enfin, c'est pas notre langue maternelle. Donc, quand on arrive sur place, moi, je suis toujours un peu mal à l'aise. Je me dis, non, mais je parle trop mal la langue. Les gens vont se moquer de moi. Et du coup, forcément, j'avais une appréhension, surtout que je savais que j'allais arriver et que j'allais arriver à l'aéroport et qu'ensuite, il fallait que je prenne 10 000 métros et bus toute seule en Russie avec tout écrit en cyrillique pour aller à ma résidence étudiante et qu'il faisait nuit et que j'allais être dans une chambre avec une inconnue pendant 9 mois. Donc forcément, j'étais angoissée, mais j'avais trop hâte parce que je savais que ce serait soi-disant la plus belle année de ma vie.
Est-ce que c'était la première fois que tu étais en Russie?
Non, du coup, au lycée, quand je faisais du russe, en première, on est allé en terminale, je crois, à Saint-Pétersbourg. Donc, pareil, on avait fait un échange, mais avec des correspondants, correspondantes. Et du coup, il y avait ma correspondante qui était venue en première, et moi, j'étais allée la voir en terminale à Saint-Pétersbourg. Et Saint-Pétersbourg, c'est vraiment une ville magnifique. Enfin, si vous y êtes déjà allé ou si vous voulez y aller, c'est incroyable. Et du coup, on y est allé en février et c'était fou. Donc moi, j'avais bien aimé. Après, il fait froid. Hein.
Et comment tu vivais en Russie? Dans où est-ce que tu avais trouvé ton logement et comment ça se passait?
Donc du coup, quand je suis arrivée, je savais que j'avais droit à une chambre au dortoir, ça s'appelle. Donc en russe, ça s'appelle l'obchejitie. Et donc c'est une sorte de résidence universitaire, mais je dirais plutôt un dortoir puisqu'on partage des chambres à deux. Donc il y a 13 étages, donc c'est comme si on était dans une tour un peu comme là où on enregistre aujourd'hui. Et on est à vraiment deux pas de l'université, genre vraiment le matin on avait 50 mètres à faire pour aller à l'université, on est sur le campus vous voyez. Et voilà, donc on est dans des minuscules chambres de 8 mètres carrés, donc on a une salle de bain, on n'a pas de cuisine, on a des cuisines communes, il faut monter un étage pour aller à la cuisine. Et on est en banlieue de Moscou, donc on est vraiment à... une heure en métro du centre de Moscou. Moscou, c'est immense. Et on ne peut pas y aller à pied ou en vélo ni rien. Donc là où on habite, c'est vraiment très moche. Il y a des parcs, mais c'est surtout des immeubles. C'est vraiment une banlieue inintéressante.
Est-ce que c'était loin de l'université?
Non, du coup, je viens de dire, c'était vraiment à deux pas de l'université. C'était sur le campus. Donc, le matin, on mettait une minute à aller à l'université. Ça, c'était vraiment l'avantage. C'est qu'il y a des gens qui ont pris les appartements en ville, des Français comme moi, parce qu'ils en avaient marre de vivre au dortoir avec quelqu'un d'autre. Surtout que tu choisissais pas la personne avec qui t'allais vivre. Du coup, il y en a qui ont pris les appartements dans le centre, mais tous les jours, ils mettaient une heure à venir et une heure à repartir. Et avec les bouchons, la neige, enfin, tu sais jamais. Nous, on se levait 10 minutes avant d'aller en cours. Donc ça, c'est un avantage quand même.
Et comment tu faisais pour faire ta lessive? Parce que tu m'avais raconté une histoire à ce sujet.
Bah, en fait, on avait une dame qui nous faisait la lessive. Donc c'était son métier. Donc elle travaillait au sous-sol de l'immeuble. Et on devait aller lui apporter notre linge le jeudi. Et en fait, elle était super méchante. Elle parlait pas un mot d'anglais, elle parlait que russe. Et moi, je parlais un peu russe, mais je veux dire, pour parler de linge, il y a quand même des termes techniques. Et elle nous gueulait dessus tout le temps si on avait mal rangé notre linge ou si on venait pas le chercher pile à l'heure. Ou même si on était juste normaux, elle nous détestait. Donc moi, elle m'engueulait tout le temps. Et la seule façon d'être copain avec elle, c'était de lui offrir des chocolats, de lui offrir des trucs. Et du coup, tout le monde lui offrait des trucs. Et moi, je comprenais pas parce qu'elle était vraiment hyper méchante. Elle nous insultait. Et je comprenais pas pourquoi les gens lui offraient des trucs. Moi, du coup, j'y allais que toutes les deux semaines. Enfin, quand j'y allais, j'avais la boule au ventre, j'étais pas bien. Et en plus, dans notre chambre, on avait une machine à laver. Du coup, on se disait, oh, si la machine à laver, elle marchait, on pourrait faire notre linge nous-mêmes. Et en fait, elle marchait pas. Et puis, quand elle nous rendait le linge, il était mouillé, en fait. Donc, elle le mettait juste dans une machine. Et après, on devait le faire pendre dans notre 8 mètres carrés, dans notre petit studio, avec, vous savez, sur des cintres. Et on devait le faire pendre partout dans l'appart. On était deux. Et ça mettait des plombs, enfin ça mettait pas beaucoup de temps à sécher parce qu'il faisait 40 degrés, mais voilà.
Ok, une autre question. Comment se passaient les cours pour toi?
Donc comme j'ai dit, j'avais que des cours en russe et le principe c'est un peu comme à la fac en France, c'est-à-dire qu'on avait des cours en amphithéâtre magistraux avec des professeurs qui racontaient leurs cours et on était censé prendre des notes et à la fin on devait écrire, faire un examen. Ou on avait des cours en petits groupes. Sur d'autres sujets. Donc nous, c'était plutôt histoire, sciences politiques, littérature. Voilà, on avait des cours en petits groupes aussi. avec des profs, et là, on faisait plus des exercices. Mais nous, ce qui était aussi particulier, c'est qu'on avait 8 heures de russe par semaine. Donc, on était entre Erasmus, enfin, on appelle des Erasmus alors que ça n'en est pas, mais on était entre étrangers, et on avait 8 heures de russe avec une prof russe, où on faisait que de la langue russe. Donc là, c'était par niveau. Donc, au début de l'année, on faisait un test. Moi, j'étais dans le niveau 3, et le meilleur, c'était les 1. Et du coup, là, c'était génial parce que du coup, on faisait des exposés, on parlait russe et on était entre nous. Quoi. Donc ça, c'était cool. Mais les autres cours, les cours magistraux, on était avec des autres Russes. En fait, nous, on suivait leurs cours, mais c'était pour les Russes. Donc on comprenait rien. C'était horrible de prendre en note les cours. Les examens, c'était un enfer. Moi, écrire des dissertations en russe, je mettais des jours et des jours. Enfin, c'est une des langues les plus difficiles au monde. Enfin, c'est infernal avec les déclinaisons, les verbes et tout. Et au final, les profs, ils nous mettaient tous des A parce qu'on était étrangers, donc ils allaient pas nous... Enfin, ils étaient sympas. Mais moi, je me faisais chier à faire des dissertations et je me disais, mais si on traduisait ça en français, ce serait vraiment nul. C'est sur la guerre froide, des trucs comme ça, c'était nul.
Et là-bas, en Russie, quel genre d'amitié as-tu formé? Et avec quelle nationalité?
Donc, j'ai essayé de me faire des amis russes. Et c'était assez pathétique parce que j'ai essayé de sortir avec des Russes, d'aller dans des bars, dans des restos, d'aller faire la fête. Et en fait, il y avait un mur, quoi. Enfin, c'est pas du tout la même culture, ça n'a rien à voir. Je dis pas qu'on peut pas se faire d'amis russes, mais en tout cas, moi, j'ai pas réussi à nouer des contacts qui durent encore aujourd'hui, tu vois. Enfin, vous voyez. Et du coup, c'était vraiment très superficiel. Et puis, je me sentais pas vraiment bien avec eux. Donc après, comme tous les étudiants étrangers, moi, j'étais pote avec d'autres étudiants étrangers. Donc ça pouvait être des Français, des Italiens, des Japonais, des Allemands. Et notamment, je vivais avec une Allemande dans ma chambre. Et Anne-Catherine. Et du coup, elle, c'était un peu ma meilleure amie parce qu'on était tout le temps ensemble, quoi. Donc, je me suis fait des bons potes. Et il y en a certains à qui je parle encore aujourd'hui.
Et si tu dois donner une définition ou explanation, quelle est la différence entre des amitiés entre Français et des amitiés entre des étrangers?
Avec les Français, c'était facile parce que du coup, on parlait français, on avait la même culture, on venait souvent de Sciences Po tous, donc on avait des points communs. Après, il y avait plein de Français qu'on détestait. Enfin, les Français, c'était vraiment les gens qui étaient les plus prétentieux, qui avaient pris leur appartement dans le centre, qui faisaient des grandes fêtes. Donc moi, j'étais plutôt amie avec un ou deux Français maximum parce que les autres, ils étaient hyper prétentieux. Et puis les autres étrangers, non, c'était des rapports pareils. Enfin, je veux dire, bien sûr, il y a la langue, donc des fois, on parlait en anglais, des fois, on parlait en russe. Mais non, on faisait plein de voyages, on s'éclatait, on faisait la fête. Toutes les semaines, on allait dans les chambres les uns des autres. Et on était dans une minuscule chambre à 15, 20, 30. Et on buvait. Et à un moment donné, il y avait la commandante. Dans la commandante, c'était celle qui gérait le dortoir, qui venait toquer et qui nous insultait, qui nous engueulait, qui nous prenait en photo parce qu'on n'avait pas le droit de faire la fête. Enfin... On avait l'impression d'être en maternelle, quoi. Enfin, on était vraiment... c'était la police. Pareil, à l'entrée du dortoir, il y avait un sas de sécurité, donc un tourniquet. Donc, il fallait montrer son badge à la sécurité. Il y avait jour et nuit quelqu'un qui vérifiait qu'on appartenait bien au dortoir. Donc, on pouvait faire venir personne. Donc, par exemple, si t'as ton copain qui vient, il peut pas dormir là. Enfin, c'était impossible. Donc, on était vraiment comme des enfants.
Quelle est la différence entre la vie étudiante en France et celle à l'étranger, en Russie?
Vous voulez dire entre ma vie étudiante,
oui,
ici et là-bas, c'est que en France, forcément, j'étais à Lille, à Sciences Po Lille, et c'est une petite ville, donc on faisait tout à pied, et on avait tous des apparts, donc on était vraiment indépendants, et on faisait la fête, mais après on rentrait chez nous, c'était facile. Et après, on allait en cours comme en Russie. Mais en Russie, la différence, c'est que quand on allait faire la fête, par exemple, dans le centre de Moscou, il fallait prendre un taxi pour revenir à 4h du mat. Et c'était à 1h. Donc, c'était toute une organisation. Et puis, on revenait, on se serrait dans le taxi pour payer le moins cher possible. Et après, on se faisait donc disputer par la sécurité du dortoir parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer après minuit. Enfin... C'était fou. Après, à la vie étudiante, c'était tellement ennuyeux parce qu'on n'avait pas le droit de faire la fête en dehors, on n'avait pas le droit de faire la fête à l'intérieur. Les Russes, donc j'arrivais pas à m'en faire des vrais amis. L'université, les cours étaient chiants, nuls. L'université, c'était immense, c'était comme un centre commercial, c'était hyper froid. Moi, j'allais à des cours de théâtre, mais j'arrivais pas à jouer, donc je regardais des gens jouer au théâtre. Enfin, voilà, il n'y avait pas vraiment d'activité. Et on allait faire les courses, mais c'était hyper loin. Tout était loin, en fait. Pour aller au métro, déjà, il fallait marcher 20 minutes ou 25 minutes. Donc, il fallait aller en plein hiver avec les plaques de verglas. Faire du sport quand il fait moins 10, moins 15 dehors, c'était l'enfer. Donc, moi, ce que j'avais trouvé comme solution et qu'il n'y avait pas en France et qui était bien là-bas, c'est que sur le campus, il y avait une piscine. C'était pas cher du tout, donc j'allais à la piscine deux fois par semaine parce que sinon, ma santé mentale, j'allais pas tenir quoi. Enfin, j'avais besoin de faire du sport et du coup, avec mes amis, on allait deux fois par semaine à la piscine. Et ce qui était bien en Russie, c'est qu'il y avait une cantine universitaire. Et que enfin, la nourriture russe, moi j'adore, et c'était bon. Il y avait plusieurs cantines, donc il y avait plusieurs styles aussi, et plusieurs prix. Et ça, en France, on n'avait pas vraiment de bonnes cantines. Donc j'allais manger tous les jours à la cantine, comme ça j'avais pas besoin de cuisiner, parce que cuisiner, c'était donc aller à la cuisine, à l'étage d'au-dessus. On avait un minuscule frigo pour faire la cuisine, il y avait 4 plaques, mais on était 25, enfin... C'est pas très pratique, donc j'essayais de cuisiner le moins possible.
Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Et c'était comment l'hiver à Moscou?
Bah, en fait, moi, en fait, c'est pas ma passion, les pays froids. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont vécu la meilleure année de leur vie. Mais moi, il fait froid, il neige, enfin, ça me saoule. Il fait moins 15, enfin, je vois pas l'intérêt. Et quand on partait en voyage, quand on est à Moscou, on s'en fiche parce qu'on peut rentrer chez nous si on a froid. Mais quand on était en voyage et que toute la journée, on revisitait une ville, moi, enfin, même avec un collant, deux collants sous les pantalons, moi, je mourrais de froid. Et donc l'hiver à Moscou, bah, c'était triste, il faisait nuit tout le temps, il faisait gris. J'ai pas vu le soleil une seule fois de toute l'année. Parce qu'il y a la pollution, plus la météo, je sais pas, mais j'ai pas vu le soleil une seule fois. Il faisait gris tout le temps. Donc là, le temps qu'on a aujourd'hui à Alençon, c'est impossible.
Ouais, enfin, on est venu te voir à Moscou parce qu'on est sœurs. Hein. Et quand on est venu te voir, il y avait beaucoup de soleil, hein.
Donc tu vois, moi j'ai tout déformé dans ma mémoire et en fait, forcément vous êtes venu en avril et c'était la seule semaine de l'année où il avait 20 degrés, donc ça n'était pas du tout représentatif.
Mais il a même fait 30 degrés à un moment.
Ouais, mais de septembre à avril, sinon il faisait zéro. Bon, il a pas fait moins 15 très souvent, il faisait zéro et il faisait gris. Mais je suis d'accord qu'à partir d'avril, c'était génial.
Est-ce que tu as quand même des bons souvenirs ou des expériences surprenantes?
Oui, j'en ai plein et je vais raconter une seule parce que sinon on en a pour des heures. Donc en fait, donc je disais à partir d'avril, c'était super. En fait, ce qu'il faut savoir, enfin, je sais pas si vous avez des questions sur ça, mais donc le premier semestre, j'ai fait une dépression. Enfin, vraiment, j'étais pas bien parce qu'en plus, j'ai quitté mon copain. Le meilleur ami de mon ex, donc de mon copain, est mort. Parce qu'en fait, on était tous en Erasmus à l'étranger, et donc le meilleur ami de mon... Donc mon copain, il s'appelait Paul, et son meilleur ami, il s'appelait Arthur. Et Arthur est mort en Argentine, à Mendoza, parce qu'il faisait la fête, et un jour, il a pris des drogues, et il est tombé, en fait, d'une fenêtre du deuxième étage à une fête. Donc il est mort. Donc Paul m'a écrit, alors qu'on n'était plus ensemble, pour me dire, bah, Arthur est mort. Donc c'était horrible, enfin moi je connaissais bien Arthur quoi, et puis de savoir aussi que Paul était en deuil, et du coup après on s'est remis ensemble Paul, mais le premier semestre avec l'arrivée de l'hiver, le fait qu'avec ma coloc, puisque je vivais avec une Allemande, ça se passait hyper mal parce qu'elle était hyper toxique. Mais même avec n'importe qui, ça se serait passé mal parce qu'on était dans une chambre à deux, c'était pas possible. Le fait que voilà, les cours c'était décevant, que c'était en banlieue de Moscou, enfin tout ce que je vous ai raconté. Donc moi, la première semestre, j'ai fait une dépression. Et le deuxième semestre, je me suis dit, là, je vais m'éclater. Donc le deuxième semestre, j'allais tout le temps en voyage. Je partais tout le temps, j'allais voir Paul en Lettonie, en Ukraine, en Pologne. Et en juin, donc l'expérience que je voudrais raconter, c'est qu'en juin, je suis partie toute seule pour la première fois de ma vie. Et je fais un podcast qui s'appelle Marie sans filtre et je vais raconter ça aussi dans mon podcast parce que je voyage seule. Et la première fois que j'ai voyagé seule, c'était en juin, donc 2015. Et en fait, malheureusement, il y avait eu la guerre avec l'Ukraine, vous savez, dans le Donbass. Et donc, la Russie a annexé la Crimée. Donc, la Crimée, c'est vraiment la partie, je sais pas si vous voyez où c'est, sur la mer Noire. Et donc, moi, c'était bien pour moi que la Russie annexait la Crimée parce que je pouvais y aller en avion sans visa. Et c'était pas cher du tout, l'avion. Donc, en juin, personne voulait y aller avec moi parce que j'avais demandé quand même aux autres étrangers. J'avais plus cours. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'attendrais que quelqu'un vienne avec moi? Donc, j'ai pris un billet d'avion. Je suis partie en Crimée. Je parlais déjà bien russe. Et j'ai fait le tour de la Crimée pendant une semaine toute seule. Et ça a changé ma vie. Enfin, c'était incroyable. Et j'ai rencontré plein de gens. Il faisait 25 degrés. Je me suis baignée dans la mer. Enfin, la Crimée, j'ai trop hâte d'y retourner. C'était magnifique. Donc ça, je raconte ça comme expérience. Parce qu'en soi, c'était en plus si, quoi.
Et tu peux nous parler des autres voyages que tu as fait aussi? Où est-ce que tu es allée? Comment?
Donc je suis retournée à Saint-Pétersbourg pour voir une amie, parce que j'avais une amie qui était en Finlande, à Turku, et de Finlande, elle avait le droit de prendre le bateau pour venir à Saint-Pétersbourg sans visa, pendant 48 heures, du coup, 72 heures. Et du coup, on a visité Saint-Pétersbourg, elle connaissait pas, c'était super. Et puis avec d'autres amis de Moscou, là on a fait, ça vous connaissez pas, mais on a fait toutes les villes autour de Moscou qui sont super belles et super touristiques. Yaroslav, l'anneau doré, voilà. Et puis après, on est allé à Kazan, donc c'est beaucoup plus à l'est, et on a pris le transsibérien pour y aller, donc on dormait dans des couchettes dans le train, et donc on est allé à Kazan, qui est une super ville aussi. Et donc après, donc ça c'était super de voyager avec les gens de ma fac, et puis après aussi, donc comme je vous ai dit, je suis allée en Ukraine, je suis allée à Kiev, c'était trop beau. Je suis allée en Pologne, à Varsovie, à Cracovie et à Gdansk, au bord de la mer, c'était génial. Je suis allée en Lettonie, à Riga, c'était trop beau, il y avait plein de neige et c'était trop beau. Voilà.
Ah oui, t'as fait un petit tour.
En fait, je prenais beaucoup le bus et le train, j'ai pas pris l'avion pour tous les trucs que je raconte, sauf la Crimée. Et c'était pas du tout cher et je prenais le bus pendant 18 heures d'affilée, enfin voilà.
Mais c'est complètement différent en comparaison avec mon expérience maintenant. Parce que voyager, c'est un peu difficile maintenant.
Ouais, ma pauvre, c'est horrible.
Mais, ok.
Est-ce que, du coup, on a cru comprendre qu'il y avait plein de choses qui ne sont pas passées comme tu l'avais imaginé. Mais est-ce que tu as regretté des choses? Est-ce que tu as regretté d'être partie, d'avoir choisi cette destination? Ou d'avoir choisi de dormir dans ce dortoir ou...
Ouais, en fait, je pouvais pas... Enfin, moi, je regrette pas beaucoup de choses dans ma vie parce que je pouvais pas savoir. Donc, puis c'était pas vraiment facile de louer un appartement à Moscou toute seule. J'aurais payé 600 euros. Je sais même pas comment on trouve un appartement quand on est étranger, puis faire tout le transport tous les jours pour aller à la fac. Je suis pas sûre que je l'aurais mieux vécu, en fait. Mais c'est sûr que je regrette... Enfin, j'ai pas du tout aimé vivre dans ce dortoir. Enfin, les avantages du dortoir, c'est que j'étais avec tous mes amis, puisqu'on pouvait se retrouver hyper facilement. Mais moi, avec ma coloc, ça s'est assez mal passé. Je regrette... Enfin, je regrette, en fait, que ça soit le fonctionnement traditionnel en Russie. Parce qu'en fait, il n'y avait pas que moi qui vivais avec une personne. C'est-à-dire que même les Russes, quand ils sont en résidence universitaire, ils partagent leur chambre des fois avec 4 personnes. Ou 6. Et non, pas 4 personnes. Enfin, des fois, ils dorment dans la même chambre et ils sont 4. Mm. Alors que nous, on était 2. Donc nous, on était favorisés. En plus, ils sont 4, mais dans des dortoirs à l'autre bout de Moscou. Nous, oui. On était vraiment hyper favorisés. On était au rez-de-chaussée. On était entre étrangers dans un dortoir en bon état. juste à côté de l'université. Et ça s'est mal passé. Donc j'imagine même pas pour les autres. Et on avait de l'argent, donc on pouvait voyager dans d'autres endroits. Si on... Enfin voilà, ma coloc, ce qu'on faisait, c'est que souvent elle partait, et puis moi je restais, et puis moi je partais, et elle restait comme ça, on avait l'impression d'être toute seule pendant une semaine. Donc ça, ouais, je regrette. Et puis cette université était vraiment nulle. C'est une université qui forme en fait les futurs premiers ministres, les futurs hauts fonctionnaires russes. Donc c'est vraiment des fils de riches. Ils sont tous en costard toute la journée. Et les filles, elles sont toutes en escarpins avec des talons comme ça toute la journée. Quand elles arrivent, elles enlèvent leurs bottes fourrées pour la neige et elles mettent leurs escarpins. Et moi, je suis habillée comme un sac. Et elles sont toutes maquillées, super belles. Enfin, les Russes, quoi. Donc, enfin, je dis pas qu'elles sont toutes comme ça, les Russes, mais en tout cas, c'était comme ça. Donc, c'était tellement intimidant. On avait l'impression d'être une petite goutte d'eau dans le Pacifique. Et que tout le monde s'en foutait de ce qu'on pouvait devenir, quoi. C'est vraiment dur. Voilà. Mais après, je sais pas si je regrette d'autres trucs, mais ça fait déjà pas mal.
Et avec le recul des années, qu'est-ce que cette expérience t'a apporté ?
Ça m'a apporté que j'étais quasiment bilingue en russe à la fin. Moi, j'ai tout oublié depuis, mais c'était bien. Et puis, ça m'a apporté donc, que j'ai appris à voyager seule, puisque la première fois, c'était en Crimée en 2015, je viens de le dire. Et puis, ça m'a appris que... En fait, le problème, c'est que du coup, après cette expérience, j'ai dit que je voulais plus vivre avec jamais de ma vie avec personne. Donc je me suis dit, je vivrai jamais en coloc, faut que je vive toute seule toute ma vie, parce que je suis insupportable. Enfin, en fait, je me suis vraiment mis ça comme responsabilité, que c'était de ma faute si je l'avais mal vécu, c'est que je suis pas faite pour vivre en coloc. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est juste que je ne suis pas faite pour vivre dans la même chambre qu'une femme qui a 5 ans de plus que moi et qui passe son temps à me dominer. Donc du coup, après, j'ai perdu beaucoup de temps à vivre toute seule à Lille, à Paris, et à pas aimer ça, parce que vivre seule, c'est quand même dur. Et puis après, maintenant, je me vis avec ma sœur en coloc et ça n'a rien à voir, en fait, de vivre avec quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un avec qui a sa propre chambre, quelqu'un qu'on peut quitter si ça se passe mal. Là, en Russie, j'avais juste... Enfin, j'aurais pu partir, mais j'avais nulle part où aller, quoi. Et surtout, ce qui est fou, c'est qu'on nous avait dit, au début, si ça se passe hyper mal avec notre coloc, on peut toujours changer de coloc. Mais en fait, on sait jamais sur qui on va tomber. Et c'était hyper raciste parce qu'en gros, c'était bien de vivre avec une Allemande et une Française, mais on se disait toujours entre nous, mais le pire qui pourrait nous arriver, c'est de vivre avec une Chinoise ou avec une Russe, parce que voilà, la culture est différente. C'est hyper raciste. Et du coup, moi, je me disais, ah, ça va, je vis avec une Allemande. Bah oui, vous êtes Française et Allemande, par exemple, et donc on a la même culture, voilà, on est toutes les deux féministes. Et en fait, c'était absurde parce que du coup, on n'osait pas changer de coloc parce qu'on se disait, ça se trouve, je vais tomber sur pire.
Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui s'apprête à partir en échange universitaire à l'étranger et qui prépare son départ ? Ou qui hésite à y aller ou qui...
Mais en fait, on ne peut pas vraiment donner de conseils parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. En plus, moi, je connais l'endroit où je suis allée, donc le MGIMO à Moscou, mais je ne connais pas les autres universités, les autres pays. Donc, je dirais juste s'informer sur comment c'est sur place, quelles sont les conditions d'hébergement, le prix, si on va être qu'avec des étrangers ou qu'avec des gens du pays ou qu'avec des Français, s'informer sur les cours, enfin, juste s'informer, mais après... Je sais pas ce que tu veux dire. Enfin, je suis pas vraiment. Je vais pas dire aux gens non, ne partez pas si c'est un pays trop différent du vôtre. Enfin, forcément, si toi tu vas en Finlande, bah c'est plus ou moins la même culture européenne. Alors que la Russie ou si on va en Chine ou dans des pays comme ça, c'est. Je pense que c'est hyper difficile. Et en fait, moi, j'ai le projet de retourner en Russie, mais voilà, je me demande vraiment avec qui je vais vivre, où je vais vivre, parce que. C'est compliqué de trouver un endroit où vivre quand t'es pas du pays. Moi, c'était pratique. Je suis arrivée, j'avais une chambre au dortoir, quoi, et c'était pas cher. Mais c'est compliqué de prévoir quand on part dans des endroits aussi différents. Je pense qu'il faut être prêt à vivre quelque chose de difficile et de prendre que le positif, parce que on peut jamais s'attendre à ce qui va se passer. Et puis si ça se passe trop mal, savoir aussi dire stop et repartir chez soi. Enfin, je veux dire... Des fois, on se fait du mal. Je me rappelle qu'à un moment, j'étais tellement mal que je pleurais en Skype avec mes parents. Et, Et je me disais, j'ai plus envie d'être ici, j'ai plus envie d'aller en cours. Et je me suis forcée à rester, à aller en cours. Peut-être qu'à ce moment-là, j'avais envie d'aller dans un autre pays, enfin de rentrer ou quelque chose comme ça. Et mes parents m'ont dit, non, tu restes et tout. Et du coup, enfin, je sais même plus s'ils m'ont dit ça, mais en tout cas, je suis restée. Et je me dis, peut-être des fois, c'est bien aussi de faire une pause. Enfin, on n'est pas obligé de vivre son expérience à fond et de rester 24 sur 24. Et d'ailleurs, au second semestre, c'est ce que j'ai fait. J'ai voyagé plus, je suis moins allée en cours. J'ai plus essayé d'être amie avec des Russes. Enfin voilà, en fait, le conseil que je donnerais, merci, c'est plutôt de pas se forcer à s'assimiler au pays, quoi. Moi, j'avais vraiment ce truc, il faut que j'ai des amis russes, il faut que j'ai un copain russe, il faut que je vive dans le dortoir, il faut que j'aille en cours, il faut que je sois bilingue en russe. Et à la fin, j'ai dit, bah non, c'est pas grave si je suis amie avec des Françaises. En fait, j'avais cette culpabilité d'être amie avec des Français. Enfin, j'étais vraiment dans le syndrome de la bonne élève. Et du coup, à la fin, non, je voyageais, j'étais amie avec des Français. J'ai arrêté d'être amie avec des Russes. Et j'ai arrêté d'aller en cours si je sentais que le cours, il me servait à rien. Et du coup, j'ai vécu une meilleure année. Je pense qu'il faut s'écouter et profiter des avantages de là où on est, quoi.
C'est drôle parce que du coup, quand t'étais en Russie, c'était en 2014, c'est ça ? Et moi, j'avais 15 ans et on n'était pas si proches à l'époque. Du coup, on ne se parlait pas trop et je ne me rendais pas compte que ton expérience, c'était vraiment pas ouf. Mais du coup, ça m'a donné envie de partir en Erasmus.
Ah bon ?
Ouais, parce que de ce que je voyais, ça avait l'air cool.
Non, mais en fait, c'était... Enfin, je pense aussi que je cachais vachement que c'était dur parce que c'est ce cliché qui est important aussi à déconstruire dans ce podcast, c'est... qu'en Erasmus, tout doit être parfait. Et donc, on doit faire tout pour s'assimiler au pays. Enfin, moi, j'avais ça. Et je voulais pas être la Française en Erasmus qui reste entre Français et qui parle que français. Tu vois, je voulais vraiment être quasiment russe. Enfin, c'était ridicule. Et du coup, il y avait vraiment ce cliché de bah, si ça se passe mal, il faut le garder pour soi. Donc, je cachais vachement de trucs. Et aujourd'hui, c'est sûr que quand j'en parle, les gens se disent « mais c'était horrible !» Alors qu'en fait, moi, j'exagère tout, donc c'était supportable. C'est juste que j'ai quand même fait une dépression et que c'est pas le pays où je préfère vivre. En fait, c'est paradoxal, parce que moi, j'adore toujours la Russie, j'adore l'histoire russe, la culture russe, j'ai fait tous les musées, j'adore la langue, je trouve ça magnifique. Mais le peuple russe, je ne comprends pas. Et puis le pays, avec le froid, et la nuit, et la pollution, et les villes qui sont hideuses, vraiment tout est gris, je ne comprends pas. En fait, c'est vraiment une histoire d'amour-haine. Et du coup, voilà, faut être dans la nuance, quoi. C'était pas tout noir et c'était pas tout blanc.
Mais pourquoi est-ce que tu es restée si c'était tellement horrible ?
Parce que je me disais que j'avais pas le choix, enfin c'est ce que je disais tout à l'heure, faut s'écouter, et moi clairement je me suis dit bah j'ai pas le choix, je vais pas retourner à Lille, enfin je dois finir mon année ici, et puis c'était pas si horrible, je veux dire c'était supportable, et puis surtout à partir du moment où j'ai profité, où j'ai voyagé, où je me suis fait des vrais amis, c'était très bien. Je suis restée parce que donc j'avais ce syndrome de la bonne élève, il faut que je réussisse mes cours, il faut que je parle russe. C'est normal que ce soit difficile, je suis pas la première à faire ça, je vais y arriver. Enfin, moi, je fais toujours les trucs jusqu'au bout, donc même si je souffre, c'est pas un bon modèle.
Oui, et puis ça va, t'as pas eu de pandémie qui a fait éruption au milieu de ton séjour non plus. Hein.
Non, j'ai pu voyager jusqu'à la fin.
Eh ben, merci Marie d'avoir participé à cet épisode.
Merci à vous.
Et puis, on se retrouve dans 2 semaines pour un épisode suivant des Aéronautes.
Trop hâte.
Merci d'avoir écouté.
Oui, au revoir, merci.
Bisous, bisous.
Voilà, c'est la fin de l'épisode des Aéronautes dans lequel je raconte mon expérience d'étudiante française en Russie. Je remercie ma sœur Clara et sa collègue Johanna pour leur intérêt et leur écoute. Merci aussi de me permettre de rediffuser cet épisode dans mon podcast Marie sans filtre. Si le sujet du voyage, du volontariat à l'étranger ou des études en Erasmus vous intéresse, je vous invite fortement à taper les aéronautes sur votre plateforme d'écoute et à découvrir les autres épisodes du podcast qui traitent entre autres d'interrail, d'autostop, de workaway, de woofing. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Sinon, allez écouter les aéronautes. En Espagne, en Italie, en Allemagne, en Tunisie ou beaucoup plus loin. Mention spéciale à l'épisode intitulé « Voyager à travers l'Europe de la guerre froide » dans lequel ma mère, oui, vous avez bien entendu ma mère, Marilyn, raconte sa traversée solo de l'Europe et de l'Allemagne en train dans les années 80 jusqu'à Berlin Est, en RDA, juste avant la chute du mur et la fin de la guerre froide. C'est une grande badass, on se demande pourquoi je suis sa fille. Cet épisode a été diffusé le 12 avril 2021, donc dans le podcast Les Aéronautes. Vous trouverez toutes les références que je viens de citer dans la description de cet épisode de Marie sans filtre. Pour revenir une dernière fois sur la Russie avant de vous quitter, je veux ajouter 2-3 choses au sujet de mon année là-bas entre 2014 et 2015. Donc dans l'épisode que vous venez d'écouter, je raconte qu'au début de mon année en Russie, j'ai quitté mon ex, j'ai quitté mon copain Paul et qu'après son meilleur ami Arthur décède et que je me remets avec Paul en couple et que je vais le voir plusieurs fois en Europe de l'Est pour passer du temps avec lui pendant que lui étudie en Erasmus à Varsovie en Pologne. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà publié un épisode de podcast dans lequel je raconte que mon copain est violent avec moi, que je subis des violences conjugales. Je mets aussi la référence de l'épisode en question dans la description de cet épisode. Mais si vous ne l'avez pas écouté ou si vous n'avez pas fait le rapprochement, c'est la même personne. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais à Varsovie en Pologne pour voir mon mec qui s'appelle Paul Boulben, en 2015 notamment, c'est là-bas que j'ai subi des violences conjugales de sa part, des violences physiques, des violences psychologiques, et que en fait on est allé en soirée et quand on était alcoolisé et que j'avais le malheur de parler à un autre homme, il faisait des crises de jalousie et il se mettait à me fuir, à m'abandonner en plein milieu de la ville que je ne connaissais pas, à me jeter des objets dessus, à me tirer par les vêtements, à me dire que c'était de ma faute, à m'insulter, à me crier dessus. Et une fois, il a même inventé qu'il avait tué quelqu'un pour expliquer sa violence. Oui, tu comprends, je suis violent avec toi parce que je viens de tuer quelqu'un dans la rue et que je viens d'être agressée. Voilà, alors qu'il n'avait tué personne. Voilà, c'était assez violent. C'est deux épisodes qui sont passés pendant mon année en Russie, alors que j'étais en vacances chez lui à Varsovie, en Pologne. C'est pas représentatif de mon année en Russie, mais je voulais juste ajouter ça à cet épisode. Puisque en ce moment, on en parle de plus en plus, mais les violences conjugales qui touchent les jeunes femmes, c'est un vrai sujet. On est beaucoup plus susceptible de subir des violences conjugales en fait quand on est jeune, et pourtant personne n'en parle, et pourtant voilà, je ne vivais pas avec mon copain, on était juste en vacances ensemble, et voilà, avec l'alcool, tout ça, ça dérapait. Mais bref, je suis restée avec Paul encore un an après ça, je l'ai quitté en 2016. Et pour revenir à la Russie, j'ai pas raconté dans le podcast des aéronautes mes histoires de sexe, parce que c'était pas vraiment le lieu. Mais en Russie, quand j'étais pas avec Paul, j'ai eu des relations sentimentales et sexuelles avec des Russes. Et c'était un enfer, genre... je vais pas tout raconter, mais bref, ça revient au fait qu'on n'a pas la même culture et qu'on n'arrivait pas à communiquer. Et notamment... j'avais été en boîte de nuit, j'avais flashé sur un mec et j'étais convaincue que c'était l'homme de ma vie parce que je l'avais vu. Dès que je l'ai vu en boîte de nuit, je me suis dit c'est l'homme de ma vie. Et après, j'ai couché avec lui, c'était une catastrophe. Et le lendemain, je suis rentrée chez moi, j'avais une entorse à la cheville. Et enfin, pas à cause de lui. Hein. Et après, il m'a pas harcelé, mais un peu, enfin, il voulait me revoir. Donc c'était à chier. Après, je suis sortie avec un mec de ma fac, du MGIMO. Et en fait, il voulait pas coucher avec moi parce qu'il était croyant. Et je sais même pas... Enfin, quand on était ensemble, on n'était même pas à l'aise. C'était même pas... Enfin, moi, je l'ai pécho, mais en fait, on n'était pas à l'aise ensemble et on n'arrivait pas à communiquer et on s'engueulait tout le temps. Enfin, c'était horrible et ça a duré genre juste quelques semaines. Enfin, c'était vraiment horrible. Je crois qu'on s'est il m'a largué dans une station de métro. Enfin, voilà. Et après, il y a un autre épisode de Marie sans fil dans lequel je raconte ça. Ça s'appelle Mon ex plan cul me cyberharcèle. Et en fait, quand j'étais en Russie, je suis allée à Kazan, je raconte dans l'épisode, et j'ai rencontré un mec à Kazan et je l'ai pécho. Et en fait, quand je suis revenue à Moscou, je pensais qu'il allait rester à Kazan, et en fait, il m'a poursuivi à Moscou. Enfin, c'était un délire. Genre, il m'a harcelé sur les réseaux sociaux, mais il est aussi venu à mon dortoir à Moscou, m'attendre devant le dortoir pendant des jours. Il est venu dans les bars où je sortais. Enfin, c'était horrible et je pouvais rien faire. Et du coup, je me réfugiais dans l'université parce qu'il y avait des badges pour entrer dans l'université, donc ils pouvaient pas rentrer dans mon dortoir ou dans l'université. Et mes potes, j'avais un pote qui m'avait dit que c'était bien de ma faute, c'était ma faute parce que je l'avais pécho, et donc maintenant c'était ma faute s'il me poursuivait. Enfin, n'importe quoi. Et il m'a harcelé pendant des années, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, de temps en temps, il se pointe sur les réseaux sociaux, il se crée un nouveau profil alors que je l'ai bloqué partout. Il se crée un nouveau profil et il va me suivre sur Facebook, Instagram ou Twitter. Bon, là, ça fait quelques années que j'ai pas une nouvelle, mais je sais que toute ma vie, ce mec sera dans l'encornure, enfin, pourra me sauter dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai aussi peur de retourner en Russie, parce que ce mec est vraiment un harceleur. Voilà. Je raconte donc voilà, j'ai eu des expériences sentimentales et sexuelles catastrophiques avec des hommes cis hétéros russes, et je raconte d'autres histoires sur mon blog de l'époque. Si ça vous intéresse, ce blog s'appelle polamoskva.wordpress.com. Pareil, je mets la ref en commentaire du podcast. Vous pouvez aller lire mes articles. Voilà, c'est la fin de l'épisode avec tous ces beaux souvenirs. Comme d'habitude, je vous invite à écouter mon second podcast Sologamy, qui décortique les enjeux autour du célibat, de la vie solo, de l'injonction au couple et à l'hétérosexualité avec des personnes expertes chaque premier mardi du mois. Pour ce qui est de Marie sans filtre, alors je reviens le deuxième vendredi du mois prochain avec un nouvel épisode personnel. En attendant, vous pouvez m'écrire pour me faire un retour sur cet épisode. Mon pseudo, c'est MarieAlbertFR sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce 41e épisode et que vous voulez le montrer, je vous invite aussi à lui mettre 5 étoiles ou 4 étoiles et à le commenter sur votre plateforme d'écoute, quelle qu'elle soit, c'est possible sur votre plateforme là où vous m'écoutez tout de suite. Donc, pas d'excuses, vous pouvez le faire, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça m'aidera à référencer Marie sans filtre et à ce que plus de personnes l'écoutent. Ce mois-ci, je veux remercier les personnes aussi qui soutiennent financièrement mon travail. Merci à Abdel, Elsa, Manon, Lauriane, Aristide, Mathilde, Kevin, Fania, Lou, Héloïse, Thomas, Mathieu, Blandine, Tara, Florian, Elsa et Emery pour leurs dons réguliers à ma cagnotte Tipeee. Chers auditeurs, si vous aussi vous souhaitez soutenir et rémunérer une partie de mon travail, vous pouvez vous rendre sur la page de cette cagnotte dont j'ai mis le lien dans la description de cet épisode pour me faire un don ponctuel ou récurrent. Cela m'aidera beaucoup. Merci, merci, merci. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles régulièrement ou irrégulièrement. Je mets le lien pour s'inscrire à cette newsletter dans la description de l'épisode. Elle est gratuite. Merci, au mois prochain pour un nouvel épisode de Marie sans filtre. Bisous.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.